Alors ce matin, le sujet que j'ai choisi d'aborder, c'est la tentation. Alors bon, c'est vrai que il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, et nous n'allons pas faire le tour de tout ce qui concerne la tentation, mais disons un certain aspect. Et je vais commencer par vous lire un texte de Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un chrétien, d'après le dictionnaire, c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. Et d'après Wikipédia, un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth et qui suit son enseignement rapporté par les évangiles. Il est même ajouté, il peut se former auprès d'une autorité religieuse, église, ou en étudiant l'évangile seul ou avec d'autres personnes. Ben, tout cela, globalement, est juste, bien sûr. Mais Jésus n'a pas seulement enseigné une religion. Il n'a pas seulement donné des préceptes. Il a aussi voulu être un exemple. Et il l'a répété bien des fois à ses disciples en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le soir de l'institution de la Sainte Cène, et Albert en a vaguement parlé dans sa prière, quand il a lavé les plaies de ses disciples, il a même ajouté clairement qu'il nous avait donné un exemple afin... Il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est dans Jean 13, 15. C'est donc aussi pour nous montrer un exemple que Jésus s'est fait baptiser et Dieu a validé cet exemple en démontrant visuellement par la descente du Saint-Esprit sous l'image d'une colombe et même en soulignant tout cela par cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Lorsque cet événement s'est produit, le baptême de Jésus, Jésus avait 30 ans. Et à part le récit, un court récit de sa naissance dans deux des évangiles et un petit épisode qui nous est rapporté dans Luc, de Jésus quand il avait 12 ans, on ne connaît rien de ces 30 années que Jésus a passées avant ce baptême. Alors sa vie devait sûrement beaucoup ressembler à celle de ses contemporains, et il est probable qu'il était charpentier comme son père adoptif Joseph, et rien ne semblait le différencier de ses contemporains. C'est seulement lorsque Jésus s'est fait baptiser publiquement et que rempli du Saint-Esprit, il a reçu ce témoignage de Dieu et cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé », que tout a changé. Et on va lire la suite de ce récit de Matthieu dans le chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable alors le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Certainement que ce récit de trois tentations de Jésus ne donne pas tous les domaines où Jésus a été tenté, puisque dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15, il est écrit « Jésus a été tenté en toutes choses ». Mais ce récit est surtout là comme un exemple qui nous est donné pour notre instruction. Tout d'abord, parce qu'il nous montre comment et pourquoi le diable s'attaque à ceux qui suivent la volonté de Dieu. Et aussi, la façon dont on doit réagir quand nous sommes tentés. Comment vient la tentation? Eh bien, en remettant en question ce que Dieu dit. Le diable de tout temps a essayé de mettre en doute la parole de Dieu dans la tête de l'homme. C'était le cas dès le jardin d'Éden, quand il a dit à Ève, « Vous ne mourrez point », alors que Dieu avait dit, « Si vous mangez du fruit défendu, vous mourrez. » Dans le récit que nous avons lu, Dieu a affirmé, « Tu es mon fils bien-aimé. » Aussitôt, Satan met en doute la parole de Dieu. Par trois fois, il dit, « Si tu es fils de Dieu, eh bien prouve-le. Fais-en la démonstration, montre-le par des miracles que seul Dieu peut faire. » Lorsqu'une personne décide de suivre le chemin tracé par Jésus, le diable intervient avec les mêmes méthodes. Il met le doute sur les promesses faites par Dieu. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'amour. Alors, le diable veut toujours nous suggérer, est-ce que vraiment tu es aimé? D'abord, est-ce que tu es aimable? Ou alors, et ça, on l'entend très souvent, si Dieu aime les hommes, alors pourquoi les laisse-t-il se battre? Pourquoi permet-il des guerres? Pourquoi tant de haine dans le monde? Eh bien oui, Dieu mettra fin à toutes les guerres et à toutes les souffrances. Mais c'est justement son amour pour l'homme qui le fait attendre. Attendre que tu le reconnaisses réellement comme Dieu. Attendre que tu sois réconcilié avec lui. Attendre que tu sois renouvelé dans ta foi. Attendre que tu acceptes son salut. Attendre que tu mettes ta vie en règle avec lui. Bien sûr, un jour, sa patience prendra fin, mais ce sera pour le malheur de ceux qui n'auront pas voulu le connaître. Pourquoi et dans quel but suscite-t-il la tentation? Dans le cas de Jésus, c'était pour le détourner de la vocation donnée par Dieu. Jésus est venu sur cette terre avec une mission que l'on peut résumer en quatre points. Jésus est venu révéler Dieu aux hommes. Et la Bible nous montre comment l'homme s'est éloigné de Dieu en se laissant séduire par le diable. Donc la vocation de Jésus elle peut se résumer dans 4 points. Jésus est venu révéler Dieu aux hommes. On a vu tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure le jardin d'Éden, mais il y a eu aussi la tour de Babel, Sodome et Gomorre, et puis bien d'autres épisodes où l'homme a voulu se faire Dieu à la place de Dieu et où l'homme a cru trouver la liberté en s'éloignant de Dieu. Jésus est venu pour montrer que Dieu est amour, qu'il s'intéresse à chaque personne en particulier, et surtout à ceux qui sont dans la détresse ou qui cherchent un but à leur existence. La Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement, dans le psaume 34, verset 18. Eh bien, le diable ne veut pas que l'homme connaisse l'amour de Dieu. Un deuxième point, c'est que Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme éloigné de Dieu par ses erreurs avait besoin que Dieu se rende accessible. Et c'était aussi la mission de Jésus. Dieu s'est fait homme, il s'est mis au niveau d'un simple homme pour rétablir le contact. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19, il est écrit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et le diable ne voulait pas de cette réconciliation. Le troisième point, c'est que Jésus est venu restaurer l'homme, le réparer, réparer ce qui avait été détruit par le péché. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, versets 18 à 21, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Je pense que nous devons bien reconnaître qu'il ne suffit pas de désirer être exemplaire pour le devenir. Et le constat que fait Paul dans le passage que je viens de lire, je crois que nous pouvons le faire dans notre propre vie. C'était aussi la mission de Jésus de régler ce conflit intérieur qui habite l'homme. La culpabilité, le sentiment d'échec, la peur de l'avenir, les angoisses face à l'éternité. Eh bien, le diable ne voulait pas que Jésus règle ce conflit intérieur. Mais Jésus dit dans Jean 14, 7, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le diable ne veut pas que Jésus apporte cette paix intérieure. Le quatrième point, c'est essentiel, Jésus est venu sauver l'homme. Et cette mission de la vocation de Jésus nous est exposée tout au long des évangiles. Mais je ne citerai qu'un seul de versets qui le concernent. C'est Jean 3,16 que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette mission de salut pour l'humanité, motivée par l'amour de Dieu, portée à chaque personne, eh bien, c'est justement ce que Satan ne voulait pas. Ces quatre éléments de la vocation de Jésus, eh bien, le diable est venu pour les empêcher, pour empêcher Jésus de faire son ministère. Lorsqu'une personne décide de suivre le chemin tracé par Jésus, eh bien, le diable intervient exactement de la même manière et avec le même but, nous détourner de la vocation que Dieu nous a donnée. Le premier élément de la vocation que Dieu nous a donnée, c'est le salut. Le salut que nous avons en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1:4. Eh bien oui, le plan de Dieu pour nous, c'était de passer l'éternité avec lui. C'est notre vocation. Nous avons été créés pour ça, créés pour le bonheur, pour un bonheur que nous ne pouvons même pas percevoir, même pas définir sur la terre, parce que le péché a détruit toute relation et nous ne pouvons même pas toucher du doigt l'ombre de ce bonheur. Eh bien, le diable ne veut pas de cette éternité que Dieu nous a promis, pour laquelle Dieu nous a créés. Le deuxième élément de la vocation de l'homme, c'est d'être libéré du péché. Pour pouvoir retrouver cette relation et jouir de ce bonheur avec Dieu, eh bien, nous avons besoin de la relation avec Dieu et nous avons besoin d'être délivrés de ce qui nous sépare de Dieu. C'est lorsque nous succombons à la tentation que nous sommes séparés de Dieu. Romains 6, verset 18, dans Romains 6, verset 18, il était écrit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Le plan de Dieu pour nous est de nous délivrer de nos addictions, de nos servitudes et de nous rendre justes. Parce que le péché que nous commettons n'impacte pas que celui qui le commet. C'est aussi le péché des uns qui a un impact sur les autres et qui a servi les autres. Et évidemment, le diable ne veut pas de cette libération. Le troisième élément de la vocation qui est donnée à l'homme, c'est de partager notre foi. Partager notre espérance avec ceux qui nous entourent. 1 Pierre 4:10 écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Utiliser nos dons pour le bien de tous, c'est aussi ce qui peut nous rendre heureux, et c'est notre vocation. Et le plus grand des biens que nous puissions recevoir, c'est le pardon de nos fautes. Eh bien, ce pardon, nous devons aussi le donner aux autres. Partager notre connaissance de Dieu, partager notre espérance et partager la paix que Dieu nous donne, ça, c'est aussi notre vocation. Et bien, évidemment, le diable ne veut pas de ce témoignage. Et il sait nous le dire par tous les moyens. Vous savez, en France, on a beaucoup de liberté, on a la liberté de partager notre foi. Mais on n'oublie pas de nous répéter à tout vent que la foi, ça fait partie de l'intimité. Que partager sa foi, c'est presque de l'impudicité. La foi, c'est une chose personnelle. On entend des gens dire « Oui, oui, moi je crois en Dieu, mais ça ne concerne que moi. » Bien non, la vocation de l'homme, c'est de partager ce qu'il a de meilleur, c'est de partager sa foi. Comment résister à la tentation? On voit dans les trois exemples de la tentation que Jésus a subie que le tentateur le pousse à démontrer qu'il est le Fils de Dieu par un miracle. Jésus n'a rien à démontrer, sinon qu'il croit à l'affirmation que Dieu a donnée « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Notre foi dans les promesses de Dieu est essentielle pour résister aux tentations que le diable met sur notre route. Jésus, en répondant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », eh bien, répond clairement au diable, j'ai pas besoin de faire un miracle pour prouver que je suis fils de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est « tu es mon fils bien-aimé ». Ça suffit comme preuve. Pour résister aux tentations, eh bien, c'est en prenant au sérieux les promesses de Dieu que nous serons armés. Jésus, lui, dit par cette parole que ce que Dieu a dit suffit, et que ça prouve plus que tout autre miracle qu'il pourrait faire. Et à chaque intervention de Satan, c'est avec la parole écrite de Dieu que Jésus répond. On voit que c'est aussi la manière dont nous devons répondre. Et là aussi, Jésus est un exemple. Et pour répondre avec la parole écrite de Dieu, il faut la connaître. Et nous avons besoin de cultiver cette connaissance de la parole de Dieu. Alors, après l'échec de la première tentation de Satan, eh bien, Satan monte un petit peu dans les tours et Satan veut montrer, après sa première intervention, après la tentation charnelle, il veut montrer sa puissance. Parce que vous savez que la première tentation, elle était au ras du sol, elle était dans le désert. Et c'était pour un sujet terre à terre. Transformer une pierre en nourriture. C'était subvenir à un besoin primaire. C'était vraiment une tentation charnelle. La deuxième tentation, elle se situe au sommet du temple. Elle fait intervenir des anges. Le tentateur donne comme une promesse d'autorité religieuse en positionnant Jésus au sommet du temple. C'est la tentation spirituelle. Elle englobe tout ce qui consiste à se donner autorité sur tout, à décider à la place de Dieu, à n'avoir en quelque sorte ni Dieu ni maître. La troisième tentation, elle est au sommet d'une montagne. Et là, il s'agit d'une autorité sur le monde. Et surtout, de se soumettre au tentateur. Chaque fois, c'est en s'appuyant sur la parole écrite de Dieu que Jésus a répondu. Mais pour la troisième tentation, la réaction de Jésus est radicale. Et il dit carrément « Retire-toi, Satan !» C'est parce que Satan lui suggère qu'il n'a pas besoin de passer par la croix pour régner. Vous savez, la Bible annonçait que Jésus régnera sur toute la terre. Mais avant de régner sur toute la terre, il devait accomplir sa mission et passer par la croix pour porter le péché du monde. Satan voulait occulter la croix. D'ailleurs, plus tard, quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'il devait mourir, eh bien, le tentateur a utilisé un de ses disciples pour l'en dissuader. La réaction de Jésus a été la même. On lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 21 à 23, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et oui, cette tentation est très spéciale, parce qu'elle suggère de s'approprier les promesses de Dieu sans passer par le chemin que Dieu a tracé. Nous aussi, nous avons un cheminement qui peut passer par des épreuves que nous pourrons ou que nous voudrions éviter. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas si nous ne prenons pas le bon cheminement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors cela peut paraître difficile, mais notre croix, ce n'est pas la croix de Jésus. Ce n'est pas nous qui la portons seuls. Nos propres fardeaux, nos erreurs, nos angoisses, nos questionnements, ça c'est lourd. C'est plus lourd que le chemin que Dieu nous propose. Jésus a dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'aime bien faire des randonnées dans la montagne. Et lorsqu'on marche en montagne et qu'on suit un chemin de randonnée, il est balisé. Et il y a parfois des chemins qui semblent très difficiles. Et on a quelquefois l'impression qu'en s'écartant du chemin, en prenant un chemin de traverse, ce sera plus court, peut-être même plus facile. Pourtant, le chemin, il a été tracé par les gens qui connaissent la montagne. Et c'est le meilleur chemin. Celui qui est balisé, c'est le meilleur chemin. Et le chemin qui semble plus facile, eh bien, quelquefois, il est plus facile jusqu'à ce qu'on se trouve devant un gouffre infranchissable ou devant une paroi insurmontable. Je ne sais pas si vous avez déjà été tenté par des raccourcis. En tout cas, Jésus est l'exemple, il est le chemin, et s'en écarter ne peut que nous amener à une impasse. Le chemin qui pendant un temps peut sembler plus facile n'est qu'un leurre. Alors je ne sais pas ce matin si quelqu'un est sous le poids d'une tentation particulière ou si quelqu'un s'est laissé tenter par un raccourci qui l'a mené à une impasse. Je ne sais pas si vous vous êtes laissé détourner d'une vocation que Dieu vous avait donnée ou si carrément vous n'avez pas encore choisi de suivre le chemin. Dans tous ces cas de figure, je voudrais vous donner, ou plutôt nous donner à tous, l'occasion de faire le point. Et je voudrais que nous nous courbions dans un instant de méditation. Oui Seigneur, tu me connais, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais les fardeaux de chacun d'entre nous. Tu connais les difficultés, tu connais les angoisses, tu connais les questionnements. Eh bien, tout à nouveau ce matin, Seigneur, nous venons à toi pour nous décharger de nos fardeaux et prendre ton joug qui est facile et léger, et nous laisser guider par le chemin que tu nous as tracé. Merci Seigneur, parce que tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de nous appeler, tu ne te lasses pas de nous guider. Merci pour ta patience envers chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais donner l'occasion, si quelqu'un a envie de retrouver les balises du Seigneur sur son chemin, eh bien qu'il le fasse en levant la main, en disant « Oui, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de remettre mes pas dans les tiens, parce que je suis un peu déboussolé, j'ai un peu perdu le chemin, ou la vocation, j'ai laissé la vocation de côté, la vocation que tu m'avais donnée. » Bien, ayez la liberté de lever la main pour dire « Oui Seigneur, je veux reprendre ce chemin. » Et puis, tous ensemble, eh bien, nous pouvons réaffirmer notre volonté d'être des disciples, des chrétiens affermis dans la foi. Les pas dans les pas de Jésus. Amen.